Due to unforeseen difficulties, this program maker is not available now, so we pause for a musical break.
On nous entend là.
Kiora, bonsoir, good evening. Vous êtes sur Amuse-Gueule, la radio des francophones et des francophiles. Ah bonjour, c'est David. On va baisser
la musique.
La musique. Non, c'est pas ça. Non. Ah bah c'est du tout, hein. C'est du tout. Ah c'est bon.
Il
n'y
a plus de musique.
La musique est finie. Tout va bien. Bonsoir, c'est Kiora. Good evening. C'est encore David. Amuse-Gueule, la radio des francophones et des francophiles en bonne compagnie. Victor est à la technique. Salut Victor.
Bonjour.
Bonjour. Et puis, oh bah Blandine vient juste d'arriver. On vient de presser le bouton. Salut Blandine.
Salut.
Voilà. Fred.
Bonsoir.
Et Séverine.
Bonsoir.
Une revenante qui vient pas souvent, mais on
non,
est content.
Non, mais je viens
voir.
Pour les bonnes
pour
causes.
Les bonnes nouvelles.
Les bonnes nouvelles. On va voir si c'est des bonnes nouvelles.
Il faut être gentil avec la technique aujourd'hui. C'est ça
la
première.
La technique est toute
gentil.
Nouvelle.
Ouais. Bravo Victor. C'est très sympa. Alors, on va parler un peu d'armistice. On va parler du gala.
De Richmond Road.
De Richmond Road. De Zero Waste. Si on a le temps, on va parler. On va parler de quoi, Fred?
Des îles Chatham, si on a le temps.
Et puis, armistice, t'as pas envie de parler ou t'as envie de parler?
Non, mais
je mange des carottes, donc...
Je mange des carottes et puis je poserai des questions aussi.
Ouais.
Voilà, merci.
Et puis, Victor, t'as envie de parler ou juste pousser le bouton? Ça va aussi, hein, pousser le bouton, c'est très très bien, c'est nécessaire.
Ouais, on travaille ensemble. Hein.
Travaille ensemble.
Enfin, c'est lui qui fait, puis...
D'accord. Ah, Blandine, on voulait savoir, tu sais comment faire la musique avec un CD?
Peut-être.
Ouais,
alors, avis à tout le monde, on recherche toujours des radioteurs et des radioteux.
Surtout des techniciens.
Et des techniciens, on vous forme, on vous aide et tout. C'est une super ambiance, c'est une super équipe.
Parce que Victor, il a quel âge ?
10 ans.
10 ans. Victor, il a 10 ans et il fait la technique. Donc, quand même, c'est un peu comme Tintin, journal Tintin, de 7 à 77 ans. Ouais. Technicien. De 7 à 77 ans.
Donc, et c'est pas obligé de parler quand on fait la technique.
En plus, si on dit bonjour quand même.
Voilà.
Bonjour, au revoir, merci. Ou on pose des questions, ou on dit rien du tout. J'ai fait ça, on se passait de musique alors.
Ouais. Si vous savez.
Hier, j'étais au lancement de ce CD qui s'appelle Songs for Kids. C'est fait par Marianne Burns, qui est la prof de musique de Marina View School, là où j'habite à West Harbour. Et donc, c'est la prof de mes enfants. Ils font de la chorale avec elle, mais aussi, c'est la prof de musique de l'école aussi. Donc, elle fait pas que la chorale, elle fait musique comme cursus.
Mm-hmm. C'est bien, vous avez encore un prof de musique, parce que nous, on l'a perdu dans votre école.
Une vraie. C'est le principal, il est très à fond.
Oui, mais il n'y en a plus beaucoup des profs de musique, parce que sur Auckland.
Non, c'est parce qu'il y a des budgets, oui, c'est bien. Mais nous, on a la chance, c'est qu'elle habite aussi à 50 mètres de la maison, de l'école. Mais elle est internationalement reconnue. Même cette année, elle s'est tapé le culot de recevoir un QBI, MBI, un machin chose. Donc,
On l'écoute.
Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, elle fait des CD. Ça fait 20 ans qu'elle chante. Elle est allée à Paris, machin. Et donc, le nouveau CD, c'est des chansons pour les enfants. Ce sera bien pour Noël. Et c'est la chorale de l'école. Et il y a une chanson en français. En français, en franco-kiwi. Et parce qu'elle est allée enregistrer un CD avec des Français en 2011. Et il y avait un gars il y avait un jazzman, un guitariste, qui disait toujours d'accord. Et toute la journée, elle entend d'accord.
Elle voulait savoir ce que c'était.
Et à la fin de la journée, elle a dit quand même, mais qu'est-ce que ça veut dire d'accord? Parce que le mec, il dit d'accord tout le temps. Je lui pose une question, c'est d'accord. Et on lui dit, ça veut dire ok. D'accord. Et donc,
elle
rentre à l'hôtel. Alors, la chanson d'accord, c'est la numéro 11.
Ah oui.
Et ça s'appelle d'accord ok. Hein, parce que...
En plus, la numéro 11, c'est auspicieux pour aujourd'hui.
Le 11 novembre, à la 11e heure, 11e minute. si on y arrive, Blandine essaie de nous mettre ça. Victor, tu regardes bien pour la prochaine fois. Pas de pression. C'est peut-être celui du haut, c'est le mieux celui du haut ou celui du bas le CD? On sait pas.
Non,
marqué CD1. Ah, CD1, bah, voilà, on va essayer. Ça marche
Est-ce
pas.
Est-ce que tes enfants chantent dans cette chorale?
Vraiment, en fait, mes deux enfants chantent dans la chorale et le coup, c'est que je parle sur ce CD.
Ah, tu n'aurais pas pu nous le dire dès le départ.
Je parle en français, donc.
Alors, on t'écoute.
Parce qu'il fallait un français de service. Et donc, voilà.
T'étais bien désigné.
La chanson numéro 11?
Non, on n'entend rien.
On n'entend rien du tout, mais c'est pas grave. Mais on essaie.
Ah, c'est parti.
Voilà.
On entend quelque chose.
Voilà, c'est la chanson numéro 11. D'accord, Marianne.
Bonjour. C'est toi, ça, alors?
Comment ça va?
Ça va bien. Excusez-moi, s'il vous plaît, laissez parler pour français. Assez, pardon, je parle anglais. Laissez, oui, oui, that's okay. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Okay. Then in the shops I try to say thank you. I have a go at merci beaucoup. They grin and smile and say au revoir. They know I'm not from around these parts. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Okay.
C'est pas mal pour une kiwi.
Oui, c'est bien, mais...
Très chouette. Peut-être un petit peu de travail encore.
Mais un petit peu, mais pas trop.
Ouais, juste les petits accents principaux là.
Et encore aller à Auckland et...
Travailler un petit peu, ouais.
Oui.
Oui, pour comprendre français.
Oui. They said, comment allez-vous? Means, how are you? Très bien, merci. Very well, thank you. When I left, they said... Bonjour, I said right back, have a really nice day. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. D'accord. Hello. Again, encore. Good evening, bonsoir. Okay, d'accord, 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 d'accord.
Voilà, voilà, c'était D'accord, OK, de Marianne Burns avec l'école de Marina View School à Hobsonville. Il faut éteindre le... Ah non, c'est moi qui fais du bruit ?
Non.
Qu'est-ce qui fait du bruit ?
Non, c'est juste le micro qui a tourné.
Ah, ouais. Et puis, donc, il y avait Léon, Tessa, moi-même, on est... voilà, vous avez peut-être reconnu ma belle voix. Grave. Merci. Et ça s'appelle Songs for Kids, c'est le CD, c'est sorti hier soir.
Ce sera disponible sur iTunes, tu disais.
On pense, mais ça n'y était pas hier. Mais bon, c'est difficile quand elle est auto, hein, elle a tout payé elle-même, elle a payé un graphique, une copine qui fait du graphique.
C'est comme ça que ça se passe en Nouvelle-Zélande.
Oui, elle a tout fait tout elle-même, les photocopies.
DIY.
Oui, c'est ça.
C'est DIY. Donc,
il y a même la photo de David sur la
liste. Oui, il y a la photo de David, la photo de Léon, la photo de Tessa, tout va bien. Et voilà. Tous les autres enfants.
On va mettre ça sur Instagram.
Moi, c'était un DIY gala, je peux vous dire. Aussi.
Oui. Eh ben oui, donc voilà, Séverine, tu vas nous parler gala et un peu en même temps de Zero Waste, hein, c'est ce que je comprends?
Ouais. Alors donc, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et bienvenue sur la station Planète FM. Oui, il existe à Auckland depuis 22 ans une unité française qui s'appelle l'Archipel au sein de Richmond Road School sur Grayling Ponsonby. Et effectivement, c'est une école un peu particulière avec quatre unités différentes. Donc, c'est quatre écoles dans une école. Donc, avec pas du tout aucun moyen financier du fait de plein de... Je ne vais pas vous expliquer ça maintenant, mais il faut vraiment récolter de l'argent, faire des levées de fonds. Donc, le le mot fundraising revient inévitablement. Et le plus gros, la plus grande grosse récolte de fonds que l'on fait de l'année, enfin c'est biannuel tellement c'est de boulot, on n'arrive pas à le faire chaque année, c'est la kermesse de l'école. Et bon, moi, c'est la troisième fois que j'organise cette kermesse, bien sûr avec d'autres mamans qui aident, mais c'est beaucoup.
Pas beaucoup de papas ?
Ah bah les papas ils travaillent, les mamans travaillent aussi beaucoup, de plus en plus je dois dire, donc on a de moins, en fait c'est le drame, on a de moins en moins de mamans. Quand je l'ai fait en 2012, j'avais plus d'aide.
Ouais, mais ça, c'est comme dans l'école de mes enfants, ils ont voté récemment qu'en fait, la madame qui s'occupait, enfin, que la personne qui s'occupait du galet est payée, et je trouve ça tout à fait normal.
Voilà, ils m'ont pas encore payé.
Nous, Gladstone, ils payent comme ça.
Non, mais chaque école est différente. Ouais. Là, à Richmond Road, il n'y a pas de funding pour payer quelqu'un.
Mais ils avec l'argent qu'ils récoltent, quoi, parce qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un travaille gratuitement. Et ils font aussi que tous les deux ans maintenant, parce que c'est trop de boulot.
Non seulement ce n'est pas gratuitement, mais je me suis pris des jours de congé, donc je me suis éliminée de l'argent pour aller bosser à l'école gratuitement. Mais il faut aimer, tu vois. Mais on aime. On crée des liens. Donc c'est la troisième fois et je suis Lady Gala, donc je me suis fait un t-shirt Lady Gala. J'ai t'as vu la perruque
quelle
rose?
Quelle couleur? La perruque bleu, rose, mais le t-shirt, il est bleu, c'est très joli.
Perruque rose, vraiment, je m'inspire de Lady, parce que Lady Gaga, Lady Gala, c'était facile, tout le monde retient. Mon prénom, Séverine, c'est.
T'as fait quelle couleur de cheveux?
Mais rose, regarde.
Ah oui, la perruque,
pas mes vrais cheveux. Fossile, j'ai fait la totale. Il me manquait que les talons aiguilles, mais pour courir toute la journée, c'était juste, donc je me suis mis en claquette. Mais voilà, on a fait un gala extraordinaire hier, samedi 10 novembre.
C'était de quelle heure à quelle heure?
C'est passé maintenant. C'était pendant 5 heures, de 11 heures du matin à 4 heures de l'après-midi. Et on a eu, béni des dieux, parce que un ciel bleu, le premier vrai jour d'été, hein. Pas un nuage, un petit peu de fraîcheur le matin, bien fort l'après-midi, tout le monde de très bonne humeur, tout le monde a envie de dépenser de l'argent, envie de manger.
Donc parlons d'argent, tu m'as dit tout à l'heure hors antenne, un peu moins d'argent que la dernière fois quand même.
Alors le premier gala en 2012, on avait gagné 18 500, le deuxième gala 25 000, cette fois-ci, le deuxième gala c'était en 2014, après je suis partie en France, donc rien, en 2018, on espère faire 50 000, mais si on fait 30 000, on sera très content.
Ah donc quand même plus, c'est
on vise, parce que je fais ça avec des mamans kiwis qui sont à fond, mais ce que je viens surtout vous parler de ce que je voulais mettre en place pour ce gala. C'est la deuxième fois, donc je fais trois fois. La première fois, je savais pas ce que je faisais. La deuxième fois, j'ai fait un gala zero waste parce qu'on m'a dit, Séverine, maintenant, il faut que tu agisses selon tes idées. Donc on m'a poussée, donc j'ai dit, ok, je relève le défi. Et justement, le dernier gala, j'allais évidemment le faire en zero waste, vu ce qui se passe, vu ma conscience. Enfin, je veux dire, avec tout ce qu'on entend, Aurélien Barreau, je ne sais pas si vous suivez l'astrophysicien Aurélien Barreau, qui a signé le manifeste.
C'est le Français aux cheveux longs, là ?
Ouais.
Il est sur YouTube toutes les 5 minutes, ouais.
Il est avec Juliette Binoche, Catherine Deneuve, même Alain Delon commence à signer des trucs comme ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe de majeur. Et il faut vraiment être au bout du monde comme ici pour pas savoir ce qui se passe.
Bah si, parce que lui, il est sur YouTube et sur Facebook,
il
est partout.
Il est en français, je te dis, qu'il se passe, tu vois, pour la population générale. Donc j'ai voulu faire ce gala et j'ai voulu monter sur scène plusieurs fois pour parler aux gens, aux parents et aux enfants et aux profs de la réalité qui nous attend. Alors, le Zero Waste, c'est très très bien passé. Ça a facilité la vie, en fait, du gala. On a de plus en plus de gens qui nous aident à faire ça, donc on a tout eu gratuitement.
Vous avez eu des fourchettes en bois?
Voilà, fourchettes en bois, petite assiette compostable, du bambou, des serviettes, tu sais, qui n'ont pas été blanchies avec de la...
Javel.
Donc tout normal. D'ailleurs, les gens, on leur dit, c'est là, tu vois, il y a pas de javel. C'est parce que tout ce qui est blanc, c'est qu'il y a de la javel. Quand même.
Ah. Mais parce que c'est pas naturel dans la nature. Il y a pas grand-chose de blanc.
Voilà. Donc c'était très intéressant, éducatif. J'ai beaucoup parlé de ça aux enfants avant, aux tous les gens qui tenaient les stalls. Et donc. Et donc j'ai essayé de faire passer le message, mais je me rends compte qu'en Nouvelle-Zélande, avec l'industrie laitière et l'industrie de la viande, qui est tellement c'est la
assez qui polluante. Pollue,
c'est la number one, hein,
polluante.
Tout le monde le dit.
Voilà. Assez polluante.
L'industrie polluante, la première.
Bah les camions quand même, c'est
non moins que la viande.
Le diesel pollue moins. Ouais. Bon, il n'y a que 400 c'est... millions de morts par an à cause du diesel.
C'est quoi ton, ta phrase avec le vegan, là? Il y a une phrase qui est pas mal.
Oui.
Ah, moi, quelqu'un qui est vegan, un hipster vegan dans une...
Ah oui, oui.
Elle est bien, cette phrase. Je
un hipster, un vegan qui roule dans une voiture, tu sais, les trucs, les monstres, on dirait des tanks.
Ah ouais, ouais, ouais.
Tu sais,
ouais.
Des trucs qui existent.
Ah, les Hummers.
Les Hummers. Ouais. Un vegan qui roule en Hummer. Pollue moins que toi qui roule dans ta que toi qui est pas végétarien, qui mange de la viande et qui roule dans ta voiture électrique.
C'est quand même
je suis
pas sûre de ça.
Mais Fred, on en reparlera. Mais
plus que végétarien,
je suis plus que sûre en fait.
Mais plus que végétarien, c'est végan, surtout c'est végétalien parce qu'en fait c'est l'industrie laitière aussi. C'est pas que la viande, c'est aussi l'industrie laitière qui est aussi.
On peut pas. Alors c'est un grand débat effectivement, mais on peut pas tout faire maintenant. Mais on peut
commencer.
Surtout, on peut prendre conscience. C'est la première des choses. Donc moi, c'était mon but, c'était que les gens prennent conscience qu'il y avait des alternatives, qu'on pouvait faire quelque chose sans mettre tout à la poubelle, que tout pouvait être recomposté, c'est-à-dire revenir à la nature, ou alors recycler au moins. C'est quand même le pire du... C'est le...
Ouais, la moindre des choses.
La moindre des choses. Mmh. Ou surtout... Essayez de refuser, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'une assiette si vous pouvez manger votre crêpe sur une petite serviette ou des choses comme ça. Donc simplifiez. Donc j'ai vraiment mis l'accent. Tout le monde a joué le jeu et c'était super. Alors j'ai eu quelques applaudissements pour mon petit discours de 5 minutes et quelques personnes qui ont levé les yeux au ciel en attendant que le ciel leur tombe sur la tête.
Bah aujourd'hui, il va peut-être pleuvoir. Bon, on attend.
Et Blandine, t'as des questions?
Oui, non, mais c'est vrai que...
T'étais là?
J'étais là, mais j'étais en train de faire de la barbe à papa, donc j'ai pas pu entendre les discours, mais le...
T'as pas entendu d'où t'étais?
Non, j'entendais pas d'où j'étais. Non. Mais il y a quelque chose en Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose qui je trouve un peu terrible en Nouvelle-Zélande, c'est que parce qu'ils sont pas nombreux, ils s'imaginent qu'ils sont verts alors qu'ils ne le sont pas.
Alors je leur ai dit.
Ils sont seuls dans leur bagnole, il y a beaucoup de choses qu'ils font. Sûr. Et donc on a cette espèce d'image écolo qui est complètement usurpée.
Ça, c'est à cause du 100% pur depuis 20 ans.
Et c'est la façon dont ils élèvent leurs vaches aussi. C'est qu'en fait, pour pas payer l'irrigation de leurs champs, ils laissent les vaches aller dans les rivières. C'est surtout ça, c'est là qu'est le problème. C'est la façon dont l'agriculture est développée.
Ça change parce qu'ils sont obligés maintenant de... S'ils suivent la loi, ils sont obligés de replanter. Tu sais, il y a des limites. J'ai vu ça parce que j'ai traversé encore il n'y a pas longtemps le pays.
Enfin, ça change, mais ça change assez vite. Et par exemple, ils ne peuvent pas récolter... on ne peut toujours pas récolter les huîtres et les moules après les jours de pluie parce que les rivières sont...
Oui, tout à fait, mais... Tu alimentes
et quand on parle à nos partenaires moi ils me racontent que quand ils étaient petits ils buvaient de l'eau dans les rivières, hein, ce qu'on fait absolument plus maintenant.
Si,
et ça date, il y a même pas rivières, ça dépend où tu vas. Il y a des endroits où c'est mieux,
hein, parce qu'ils ont inventé le wadeable river maintenant.
C'est quoi ça?
Eh ben en fait, comme ils arrivent plus à faire des rivières potables, maintenant il y a les rivières où tu peux encore marcher dedans, parce que celles où tu peux même plus marcher dedans, donc wadeable. C'était le gros truc l'année passée.
Je crois que l'année passée c'était celle où on pouvait pas nager, donc ils voulaient remettre les rivières pour nager.
Oui, mais il y avait celle où on pouvait pas nager, mais on pouvait quand même marcher dedans. C'était wadeable. Tu peux pas nager dedans,
grave,
mais tu peux marcher dedans. Donc ça veut dire qu'avec des bottes ça va, c'est ça.
Bon, Séverine.
Non, mais d'où les gens qui lèvent les yeux au ciel.
Oui, alors donc effectivement, quand je voyais quelques personnes qui applaudissaient, quelques kiwis, beaucoup d'étrangers, j'ai remercié les quelques personnes qui m'ont encouragée parce que c'était pas tellement facile à faire de prendre la parole devant des gens qui ont pas envie d'écouter en fait. J'ai dit je sais c'est très inconfortable, mais je pense surtout à vos enfants, à nos enfants, à mes enfants. Et j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de vous le dire ce qui se passe, j'ai besoin de vous dire que c'est pas parce que vous êtes au bout du monde, tranquille, en déni total, en pensant que vous êtes écolo, que tout est beau, mais en fait c'est parce que vous êtes 4,5 millions, donc attendez que vous êtes 60 millions, et ça va arriver, ça vous pend au nez, les gens vont venir, vous n'êtes pas épargnés, vous avez le même air que tout le monde, il n'y a pas de frontière d'air, il n'y a pas de frontière d'eau, et tout ce que vous avez besoin c'est de l'air, en 2 minutes, vous êtes mort, et de l'eau, et de l'amour. Mmh. Et là, les gens rigolent s'ils veulent, mais moi ça me parle beaucoup. Mmh. Et je dis, vous n'avez pas besoin d'une grosse voiture, vous n'avez pas besoin d'une grosse maison, vous n'avez pas besoin d'un gros mortgage, d'un gros crédit, vous n'avez pas besoin de tout ça, vous avez besoin de moins, vous avez besoin de faire attention comment vous dépensez votre argent, vous avez besoin de faire attention à qui vous donnez ce pouvoir, vous avez besoin de boycotter. Donc j'ai dit des tas de choses. Mais parce je suis très contente de le redire et le redire. Oui, je crois que je vais le dire jusqu'à ce que je meure. Quoi.
Oui.
Mais et surtout, je leur ai dit qu'on avait 2 ans. Et je pensais qu'on avait plus, mais pour faire un super effort. Parce que sinon, ça va être la catastrophe des pauvres chéris.
Mais quand tu vois que tu as des dirigeants qui nient complètement la chose.
Les dirigeants, il faut les changer, voilà.
Ouais, mais il faut, voilà. Il faut. Mais malheureusement, il faut. Tout le monde a pas cette volonté-là.
Ben, on y va.
Ouais, mais enfin,
changer quelqu'un comme Trump de sa place, tu peux pas.
Faut savoir que un des enjeux des dernières élections en Nouvelle-Zélande, c'était justement l'agriculture, et que c'est pour ça que Labour a failli a perdu une partie des voix parce qu'il voulait.
Non, il a quand même gagné le pouvoir, donc ça va. Pour l'instant.
Oui, mais ils ont dû faire des compromis, et notamment celui-là.
C'est ce qui est étrange, c'est que c'est une vision à très très court terme, et surtout. Alors moi je reçois, ma sœur m'a abonné à un magazine que j'adore qui s'appelle Psychologie, Cerveau et Psychologie. Ouais. Et alors ils parlent de la façon dont les gens sont en déni total et normalement ils prennent l'environnement. Et alors ils disent, imaginez-vous, vous êtes dans un immeuble entouré par les flammes, il vous reste 5 minutes pour vivre, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez boire un café? Et en gros, il dit ça, c'est que dit avec le problème climatique en ce moment, c'est ce qu'on est en train de faire. On est dans une maison en feu et on est en train de se prendre un café. Et donc
un café, en plus un café Nespresso avec une capsule.
Ouais, donc alors oui, donc mais ce qu'ils expliquaient en fait, ils montrent tout l'article montre de quelle façon le déni se fait. Alors il y a ceux qui vont trouver des arguments contre ça. Il y a ceux qui vont dire ouais, mais enfin c'est pas pour maintenant.
Ouais, mais on n'a plus le temps donc, de parler du déni. Non. On a le temps juste de parler des gens qui font quelque chose.
Le gros problème aussi, c'est que ces gens qui ne font rien, cette espèce de poids.
Ok. Alors voilà. je reprends.
On se met dans leur boîte aussi. Ouais. C'est eux qu'il faut convaincre.
Vous avez vu que je suis un petit peu à fond. Hein. Donc je suis entourée, mais vous aussi, de gens qui pensent comme ça. 99%. Mais si on s'arrête là, ben voilà, on baisse les bras. Moi, je ne m'arrête pas là. Donc, heureusement, il y a des gens formidables. Il faut regarder de ce côté-là. Et quand on a besoin de 3,5%, donc c'est beaucoup plus petit que ça, 3,5% d'une masse, de total d'une... Je ne sais pas ce que Fred va dire là-dessus, mais moi, c'est ce que j'ai entendu et ce que je pense. 3,5% de pensée critique qui veut changer et qui agit, et qui, ça s'appelle la désobéissance civile, c'est partout en Europe, les gens arrêtent les trains pour les mines, les gens font quelque chose parce qu'ils sont pleins dedans. Ici, bon, on est 4,5 millions,
oui, puis c'est pas un endroit où les gens...
Non, mais je veux dire, s'il y a 3,5% de gens qui changent le truc, c'est possible de changer le reste. Parce qu'ils ont beaucoup d'énergie, parce qu'ils ont c'est con ce que je veux dire, mais ils ont la vérité pour eux, ils ont la conscience, et la conscience est beaucoup plus élevée que l'inconscience. Il faut continuer à faire quelque chose pour que les choses changent. Il ne faut pas s'arrêter.
Je dis surtout pas qu'il ne faut pas continuer. Je suis entièrement avec toi. Je trouve qu'il faut boycotter. Comme en tant que consommateur, on a un poids énorme.
Ouais.
Je racontais l'autre jour, je vais dans un magasin de lampes. Et des appliques. Et en fait, ce sont des appliques. Une fois que l'ampoule est cassée, vous jetez la lampe. Parce que c'est des
LED. C'est des LED.
Voilà. Ouais. Et donc, c'est un espèce de le principe qui est dedans fait que si jamais ton électricité est coupée, comme ça arrive de temps en temps en Nouvelle-Zélande, d'autant plus dans ton coin encore plus. Quoi, non, c'est dans les boîtes à cuivre, est-ce que ça existe? Bon, en tout cas, si ça fait ça, ça endommage en fait l'ensemble de l'unité, ce qui fait que ce qui te disent qui va soi-disant durer pendant 10 ans, en général, ne dure absolument pas 10 ans.
3-4 ans.
Et donc, je me suis retrouvée à discuter.
Ouais.
Je me suis retrouvée à discuter avec le vendeur, en fait, en lui disant, je ne veux pas acheter ce produit. Je dis, cette compagnie qui fait ça,
criminel.
En 2018, nous fait un truc qui est jetable, à une époque où on est sous des tas de, on est des tas de déchets, tout le monde le sait. Je dis, une entreprise qui se fout à ce point de l'environnement, je lui dis, je ne leur donne pas mon argent. Et c'est marrant parce que le mec était assez, ils ont essayé de, y compris Brogan qui voulait absolument cette lampe-là. Lui et les deux se sont mis, ont essayé de me dire oui, mais ça va s'arranger. Je dis non, ça va pas s'arranger. Je dis c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Et c'était assez étrange parce que j'avais en face de moi effectivement, ils étaient pas contre l'idée, mais il y avait cette espèce de passivité,
apathie. Les gens sont passifs.
Pour parler de la pollution de la voiture, il y a une une chercheuse qui est d'origine néo-zélandaise, qui est maintenant qui vit aux États-Unis, qui elle a fait un blog où enfin comme elle dit, elle nerd tout, et je crois qu'elle a deux ou trois tétos.
Qu'est-ce que tu as dit?
Elle calcule, enfin elle nerd tout, donc elle science tout. Comme on dit en
tout est scientifique.
Tout est scientifique.
Elle analyse,
d'un côté mathématique.
D'un côté mathématique.
Et donc en fait, elle a rénové sa maison et en fait, elle a mis au point une unité qui est l'unité de pollution. Et donc pour tous les matériaux qu'elle a mis dans sa maison, en fait, elle a tout converti dans cette unité de pollution, mais qui tient en compte tout. Notamment d'où ça vient. Donc parfois, c'est parfois mieux de prendre un matériau légèrement plus polluant, oui, mais qui vient de moins loin. Et donc, c'est là où je suis pas tout à fait d'accord que vegan pollue moins que la voiture, parce que
la voiture électrique, c'est encore un gros mythe. Hein, si tu
mais ça dépend
les gens
quand même.
Réfléchir à la
mais
c'est pas encore
c'est pour ça
qu'on n'est pas du tout.
Et donc, il faut faire très attention et vraiment prendre en compte tous les calculs. Mmh. Et la voiture, il n'y a rien à faire, quelle que soit la façon. Donc, être vegan dans un Uber, tu pollues beaucoup plus.
Dans un Hummer.
Mais, et notamment, oui, la production d'électricité, elle n'est pas verte. Mmh. Notamment en Nouvelle-Zélande.
C'est pour ça que la seule façon de voir les choses, c'est de refuser la consommation.
La consommation, c'est ce qui nous fait vivre. Tu mets des gens sur le tapis. Faut orienter sa consommation bon endroit.
Voilà. Parce et c'est pour ça que notamment.
On vit dans une économie capitaliste. Si on arrête de consommer, on tue des boulots. Il y a des gens qui sont à la rue. Enfin bon.
Alors,
Il faut consommer local, parce que c'est ça qui pollue, c'est le transport. Local et aussi, alors donc en France, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais je trouve que c'est important de dire le non-achat, c'est pas une solution dans nos sociétés. On a besoin de vivre et on vit en consommant. Il faut juste consommer intelligemment et aller vers des entreprises éthiques qui travaillent qui font en sorte qu'il n'y ait pas de déchets, etc. En France, il y a une application, je ne sais pas si elle existe ici, qui vous permet à chaque fois que vous achetez un produit de vous dire.
Comment
éthiquement,
traçabilité.
Au niveau de l'environnement,
et justement, il faut consommer éthique. Ça veut dire que notamment, c'est pas toujours le moins cher. Et donc, il faut dépenser son argent.
C'est souvent le plus cher. Hein.
Ça dépend, pas spécialement, mais il faut dépenser son argent intelligemment et regarder d'où ça vient aussi.
Alors c'est vrai, sinon on revient à toi pour le gala, les messages, les
tu l'as eu le message.
Et donc c'est quoi la prochaine étape pour toi ou pour le gala ou pour le Zero Waste?
Non, c'est pas moi, tu sais, je suis rien du tout, hein, je suis une petite fou, mais c'est pas pour moi, c'est vraiment pour nos enfants. C'est vraiment, il faut se le mettre dans la tête, ça va leur tomber dessus dans pas longtemps. Donc je suis alarmiste. C'est la vérité. Non, moi je pense plutôt que vous parlez de capitalisme, je voudrais revenir là-dessus, je suis un petit peu plus loin dans la pensée que je vous vois maintenant. Je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. On n'est pas du tout obligé de... Je pense qu'il faudrait être beaucoup plus sobre, revenir à des choses beaucoup plus simples. Par exemple, j'ai décidé, moi qui voyage, qui adore aller en France, adore... une fois par an, une fois tous les un an et demi, et ben non, j'irai pas l'année prochaine et je suis en train de chercher un voilier pour y aller. Je change en profondeur et je crois pas que le capitalisme, c'est fini le capitalisme. Tous les gens qui font de l'économie vous disent le capitalisme c'est mort. Donc ne nous parlez pas du capitalisme, on est dans une ère de changement. Ce n'est plus le capitalisme, c'est fini. On va trouver autre chose, on va inventer autre chose. Sinon, on est tous morts dans pas longtemps. Et non seulement nous, parce que c'est pas grave.
Les gens qui ont des gros capitaux, ils vont lâcher l'affaire.
Mais on va les obliger. Mais attends, je te parle de...
Des petits capitaux, on a tous envie d'avoir une maison, soit de la posséder, soit pas de la posséder.
Et bien justement, c'est là qu'il faut changer notre état d'esprit.
Il faut qu'on habite quelque part, c'est l'un des besoins humains fondamentaux.
On n'est pas obligé d'habiter une grande maison avec plein de chauffage.
Même habiter dans une grotte, il faut acheter le terrain.
Mais je te parle pas de grotte. Non, je parle pas de grottes. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec la technologie qui existe actuellement. Il y a des choses qui sont inventées tous les jours, en Afrique, en Asie, en Europe, enfin, partout. Les innovations sont là. Il faut juste les promouvoir.
Je trouve qu'il y a.
Moi, je crois que c'est fini le capitalisme. On est dans une société d'échange, beaucoup.
Mais ça fait des années.
L'échange et le capitalisme, c'est le même synonyme.
Non, le capitalisme, c'est ce qu'il y a capital, hein. C'est pas l'échange.
Bah non,
les négoces, j'ai pas jamais dit que ça devait changer.
Non, mais quand on parle de capitalisme, il y a effectivement, il y a l'idée de capital, mais il y a aussi l'idée d'échange, de production, etc. Qui effectivement est complètement.
Je crois pas.
Mais je comprends en fond avec
le libéralisme, c'est différent.
Oui, voilà, oui. Mais bon, le capitalisme, il est complètement. Il est devenu, justement, c'est devenu une économie de capital où c'est plus la production qui donne l'argent, c'est de placer le capital.
Oui, c'est l'argent qui fait de l'argent.
C'est ça le problème dans le capital.
Non, j'ai pas des chiffres parce que c'est pas la consommation. Non. La consommation, justement, elle fait vivre les gens qui n'ont pas de capital.
Je déteste le mot consommation.
Ouais, mais sauf que les
gens. Bah, on va réinventer un autre. On va en réinventer un autre. Il n'y a pas qu'on peut faire autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que si.
On mange, on boit, c'est de la consommation. Hein. Je veux dire, c'est.
Oui, t'as raison. Donc, c'est pas ce que je pensais, c'est que si on a tous des besoins naturels, hein, mais il faut un peu les repenser. Bien sûr qu'on a besoin d'avoir chaud, bien sûr que tout le monde veut boire, mais c'est pas du tout le cas maintenant. Nestlé vole de l'eau aux plus pauvres pour nous la vendre en bouteille.
Coca-Cola
et faire
aussi.
Du Coca-Cola. Ben, c'est Coca-Cola. Donc, c'est pas du tout le cas maintenant que personne n'a suivi ses besoins, seulement ceux qui sont riches assouvissent leurs besoins. On est riches, on les assouvit encore. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Et les gens se révoltent. Et ils vont venir par milliards là où ils pensent qu'ils pourront survivre et faire survivre leurs enfants parce que c'est la loi de l'espèce. Maintenant, les choses changent. Les gens se réveillent parce qu'ils n'ont pas le choix de toute façon. Donc, nécessité fait foi. Et je vous demande, et chacun qui écoute là, je ne sais pas combien on est écouté sur ce sujet, il faut vraiment, vraiment repenser les choses et dire non, beaucoup dire non, et vraiment évoluer. C'est le moment, ou jamais. Mais c'est génial. Moi, je trouve que c'est excitant. On est la génération qui peut faire changer les choses.
Si. Je voudrais pousser le bouchon un peu plus loin. Je suis un peu d'accord avec toi, il faut y penser, il faut en parler, mais je préfère l'action. Moi, ça m'énerve un peu.
Qu'est-ce que je fais là?
En France, dans le monde entier, les gens beaucoup parlent de verdure. On est vert, on est écolo,
non,
on est machin. Mais on fait pas grand-chose.
Et le ruban vert.
Tous nos t-shirts qui ont été en Afghanistan. Bah, je sais pas d'où tes habits viennent. Mais
évidemment,
ils viennent pas
je
de
suis pas
nue
devant
pas
vous, mais ça ne serait tardé d'ailleurs. Ça ne serait tardé. Un jour ou l'autre, ce qui fait assez chaud. Mais tout est. J'achète que du recyclé. Et effectivement, j'achète plus. J'ai pas envie d'acheter. Quand je vois des gens avec des grosses voitures, mais j'ai honte pour eux, quoi. Quelqu'un qui a une grosse bague en diamant, mais ça ne me fait mais pas envie. Quelqu'un qui a une grosse voiture, mais quelqu'un qui a un joli bateau, peut-être pas. À voile, ça me fait envie. Mais tous ces besoins matériaux, on est un peu dans la luxure. Non, c'est fini. On peut plus. Faut arrêter. Voilà, maintenant sur ce sujet.
Merci Zéorine.
Passer une petite musique.
Une petite musique, mais c'était une chanson qui a été interdite jusqu'en 1974, qui est parue en 1917, et qui, c'est pour introduire l'histoire de l'armistice, c'est le centenaire aujourd'hui. Ça s'appelle La chanson de Craon, et écoutez, c'est des gens qu'on avait un peu marre en 1917 de se battre depuis 3 ans dans les tranchées. Et parce que ça marchait pas, la guerre ça sert à rien. Et donc je vous fais écouter ça. Je mets le son à fond. Ça va être bon, Victor? Ouais, on va essayer. C'est parti. Je prends.
Quand au bout de 8 jours le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, nos petits chasseurs viennent chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. C'est pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau, car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Bravo, bravo, c'était donc la chanson de Craon. Là, c'était chanté par Amado, c'est une, donc une chanson parue en 1917. Cette version-là, c'est pas de 1917, mais j'ai eu du mal à trouver la version de 1917.
Donc elle a été interdite jusqu'en
1974, parce que les Français sont très forts pour interdire plein de choses.
Ouais, bah notamment le nucléaire, c'est encore,
Si on fait une chanson sur le nucléaire, on n'a pas le droit.
Non, mais le nucléaire, il coupe encore énormément l'information là-dessus, encore aujourd'hui. Hein.
Tu sais que j'ai le gars
sur ce qui s'est passé en les îles, etc. Ça,
oh, ouais. J'aurais dû inviter mon étudiant Tanné. Ouais. Il était sur le Rainbow Warrior, il l'a fait couler.
Ouais.
Ouais. Je sais pas s'il peut en parler là.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, il a complètement viré de bord. Oui. Et il se bat contre le nucléaire parce qu'il est quand même polynésien à fond, des Tuamotu. Et, 58 ans, il est irradié de fond en comble. Et il est diver, comme on dit, il est plongeur. Il y a 2 personnes dans le monde qui ont son diplôme. Donc il va sur tous les sites, Fukushima, tous les trucs de dingue. C'est assez intéressant. Tiens, enfin, quand on fait un truc sur le nucléaire.
Oui, on pourrait faire un sujet là-dessus. Ouais.
Ça
là-dessus.
Pourrait être intéressant.
Alors, oui.
Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Donc chanson anti-guerre. C'est assez rigolo parce que ça parle pas mal d'amour, mais en fait ça dit qu'ils en ont marre de se battre. Mmh. J'ai pas compris pourquoi c'était interdit jusqu'en 74. Mais si on écoute les paroles, c'est quand même pas très. Ils poussent pas beaucoup le bouchon. Donc c'est une chanson anonyme qui a été mise en musique, etc. Un peu plus tard. Donc l'armistice, c'est quoi? Bah, on dit un armistice, mais c'est un mot assez bizarre. C'est un mot qui était féminin pendant quelques siècles. D'ailleurs, le dictionnaire de l'Académie française en 1600 et des brouettes a été féminin, et puis un siècle plus tard, en 1700 et des brouettes, c'est masculin. Et maintenant, c'est toujours masculin. Ça vient du latin arme, donc les armes, et stis ou stare, ça vient de stable, donc la stabilité des armes. Donc en fait, on dépose des armes, on les met à plat. Au niveau légal, c'est quelque chose de différent que d'autres. Puisqu'on arrête de se battre, ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin de la guerre.
D'accord.
On a juste déposé les armes, c'est un truc bizarre. Donc,
C'est une sorte de couvre-feu.
En fait, c'est un peu différent du couvre-feu, mais c'est dans la même chose, dans la même lignée. Mais
ça veut. La paix n'est pas signée, on peut recommencer.
Voilà, c'est ça. Mais la paix n'est pas vraiment signée. Si on a arrêté les armes, mais la paix n'est pas signée. Et parce que, par exemple, le traité de Versailles, il vient bien plus tard que le 11 novembre.
D'accord.
En fait, le 11 novembre, c'est une idée du 10 novembre. Poincaré, les autres, les Américains, tout le monde se disent, faut qu'on arrête. Qu'est-ce qu'on fait? À 11 heures demain, on dépose les armes, donc un armistice, et puis à 5 heures, on va signer dans le train de Redon, le train de Poincaré, on va signer un traité. Donc la guerre s'arrête officiellement à 11 heures, le 11 novembre 1918, donc il y a 100 ans aujourd'hui, mais en fait, le traité de Versailles ne vient que beaucoup après, et la signature du contrat d'arrêt, d'armistice, n'arrive qu'à 5 heures de l'après-midi dans le wagon que Poincaré utilisait. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai mis sur Facebook la photo d'un train. C'est pas un train anonyme, c'est le train de 1918 où ils ont signé, où les Américains, les Anglais, les Français, les Allemands sont réunis pour signer. Donc ça c'est le mot armistice, hein, vous trouvez ça sur étymologie.com. Mais bon, on vient à l'armistice, pourquoi et comment surtout? Parce que la guerre 14-18, bah c'est 14-18, c'est quand même 4 belles années de foutu pour beaucoup, des millions de gens, je vous donnerai les chiffres. Mais parce qu'en fait, l'analyse un peu plus moderne et avec du recul, c'est que la guerre commence à s'arrêter à partir de 1917, c'est-à-dire que la guerre continue, mais en fait, il y a la révolution bolchevique de 1917, donc tout d'un coup, les peuples européens prennent peur, le communisme grandit, les peuples zigouillent leur tsar, les tuent, machin, comme les Français deux siècles avant avaient guillotiné le roi, donc c'est la révolution, et il y a la peur du communisme, il y a la peur de la révolution populaire, qui monte aussi en Allemagne. Donc le Kaiser allemand, il commence à se poser des questions. Il dit tiens, si le peuple allemand se met en révolte aussi, ça va pas être super sympa. De deux, les Américains rentrent en guerre aussi en avril 1917. C'est-à-dire que le président Wilson, il était un peu plus commercial comme d'habitude. On s'y attend pour les Américains. C'est-à-dire que leur bateau n'arrêtait pas d'être torpillé, d'être coulé. Donc ils disaient leur bateau d'affaires, hein, pour transporter des biens et puis des gens. Et donc ils disent oui quand même. Et Wilson vient en janvier 1918. En janvier 1918, il écrit un joli le plan Wilson, où j'ai à combien 14 lignes. Mais en fait, arrêter de bombarder les bateaux avec des biens et des gens. Surtout des biens, la paix, machin chose. Donc il a un plan, Wilson, mais c'est plutôt c'est parce qu'il a envie que les intérêts américains soient gardés. Mais de ce fait, comme ils sont rentrés en guerre en 1917, quand même, à l'armistice, je ne savais pas, je l'ai appris ça aujourd'hui, il y a 2 millions d'Américains en France au 11 novembre 1918, donc en à peine 14-15 mois. 2 millions d'Américains sont venus par bateau pour défendre la mère patrie française, puisque la guerre c'était quand même beaucoup en France, beaucoup en Belgique aussi. Et donc voilà, donc une des grosses troupes qui arrive. Le pacte germano-russe, donc signé en
soviétique.
Oui, c'est soviétique. Non, soviétique c'est maintenant, c'était russe à l'époque.
Germano-russe, tu disais.
Oui, les bolcheviques, je sais plus que quand
ils sont. Non, c'était déjà, puisque c'est.
Oui,
en...
Germano-soviétique,
le pacte germano-soviétique,
c'est avant la Seconde Guerre.
C'est pas la Seconde Guerre, c'est la Première Guerre. Enfin bon, c'est pas grave. Donc il est signé aussi en 1917 pour arrêter que l'Allemagne continue à faire la guerre à la Russie. Donc il y a plein de choses, il y a des événements qui se passent entre la fin 1917 et le début 1918. Il y a les troupes qui en ont marre, dont les chansons, les poésies, les livres, les scènes de théâtre, les cinémas, où on voit qu'il y a, bon, très très censuré, hein, et on se fait encore fusiller si on fait sédition. Hein. Beaucoup de gens sont, même le jour de l'armistice, on se faisait tirer dessus par son capitaine ou son sergent si on voulait pas monter au front. Donc, il y a quand même une révolte populaire, donc, et puis des choses qui se mettent de bout à bout politiquement. Et donc, ce qui se passe dans les dernières semaines, c'est le Kaiser démissionne, Guillaume II, il abdique, il s'exile en Hollande le 9 novembre, au petit matin du 11 novembre, dans le wagon du c'était le wagon du maréchal Foch, installé à Rotonde, les représentants des gouvernements provisoires allemands et puis d'Angleterre, d'Amérique et de France se réunissent et signent.
Et si, pour ceux qui ont l'occasion d'aller à Wellington avant la fin de l'année, donc il y a l'exposition dont tout le monde parle à tes papas, mais il y a aussi au War Museum. Donc il faut monter la colline jusqu'au aussi une expo de Peter Jackson, parce qu'en fait il est fanat de la Première Guerre mondiale. Et en fait cette expo est fantastique. La visite guidée est absolument géniale. Enfin, en tout cas, si vous avez la même personne que celle qui nous a fait la visite guidée, elle nous a fait 2 heures au lieu d'une. On a failli rater notre avion. Mais et en fait l'exposition elle est très bien faite, parce qu'elle est faite au travers d'un soldat qui s'enrôle trop jeune en fait. Enfin, on fait les 4 ans de la guerre en reconnaissant ce soldat qui, et à la fin il est là en tant que grand-père. Enfin, c'est à chaque fois des figurines de cire. Mais tout est... Il y a même des endroits où il y a les odeurs. Enfin, c'est pas mal fait. Je ne sais pas ce que Victor en a pensé.
C'est interactif, donc. T'as pensé quoi, Victor?
Ben, c'était bien.
C'était intéressant?
Oui.
Ouais.
Voilà. Et donc c'est vraiment très, très bien pour les enfants et les adultes. Et puis, c'est pas mal... ça donne l'ambiance de ce que c'est que la Belgique, la France. Enfin, il y a des endroits où on reconstitue des rues françaises ou belges, et donc c'est pas mal fait, quoi.
D'accord. Je pourrais demander à Victor, qu'est-ce que tu as retenu de cette exposition? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué?
Beaucoup de choses.
Un truc. Il n'y a pas un truc dont tu te souviens?
Vous le prenez à froid là, c'est pas sympa.
Tu réfléchis, tu nous dis tout à l'heure.
Oui, tu nous dis tout à l'heure. Merci. Tu réfléchis. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
C'était bien, et il y avait des personnages en cire.
Voilà, et c'est au travers de la vie de Jimmy. C'est Jimmy qui s'appelait, c'est ça?
Je me souviens plus.
Voilà.
Donc un soldat lambda mais jeune,
qui s'engage trop jeune parce qu'il a envie de partir, parce que
il y en a eu beaucoup. Oui.
C'était censé être une guerre éclair, hein.
Oui, ben tout le monde.
Trois mois, c'est fini.
Ils allaient la fleur à la bouche la guerre. En parlant de fleur à la bouche à la guerre et de île, c'est du île au pluriel. Le centre Robert Schuman, qui est le centre pour l'Europe, le CERS, le centre européen Robert Schuman, qui est assis chez elle. SCY, pour ceux qui savent pas, un très bon papier PDF sur leur site internet sur le bilan chiffré de la Première Guerre mondiale, et ça donne les larmes aux yeux quand même. C'est 40 millions de personnes touchées par la guerre, c'est-à-dire avec des séquelles. Il y a 20 millions de morts et 21 millions de blessés. C'est les estimations maintenant recensées, en fait. Ce qu'ils ont fait, ils ont recensé en Australie, en Nouvelle-Zélande, ils ont recensé tous les pays qui ont participé. Et puis maintenant, c'est assez... puisqu'un soldat, c'est facile à recenser. Et ils ont recensé, les civils, c'est plus difficile à recenser. Et dans les civils, par contre, beaucoup, je crois qu'il y a 600 000 Belges civils qui sont morts pour la guerre 14-18. C'est un assez gros nombre au niveau civil en pourcentage. Et donc, il y a 10 millions de morts civils sur les 20 millions de morts, ce qui est un peu bizarre. Il y a 9,7 millions de morts militaires et environ 10 millions de morts civils.
C'est compliqué par le fait que s'il y a eu la grippe espagnole la dernière année de la guerre. Et donc, ça...
Oui, mais on peut se dire que s'il y avait une grippe espagnole à d'autres moments, peut-être qu'elle aurait fait moins de morts parce qu'on aurait
oui,
été...
Oui, mais c'est un peu les deux. Quoi.
Mais on peut dire aussi qu'il y avait la révolution bolchevique en 17, qu'il y avait plein de choses. Mais le fait est que l'état de guerre mondial numéro 1, grosso modo, 40 millions de personnes, c'est énorme, quoi. C'est pas une quantité négligeable. Et d'ailleurs, la Nouvelle-Zélande, en pourcentage, je savais pas, j'avais pas exactement les chiffres.
Mais
la population de Nouvelle-Zélande en 1918 était de 1,1 million et les pertes militaires étaient de 18 050. Pas de pertes civiles et des blessés, 41 000 blessés. Et en pourcentage, comparé à l'Australie, juste à côté, ils étaient 4,5 millions d'habitants, 61 928 pertes militaires.
Et ça, c'est des chiffres qui sont à la fin de cette expo-là, Wellington.
Oui, parce que ça, ils se recensaient, puisque pour l'Australie et Nouvelle-Zélande, c'est facile de recenser les militaires, les morts, parce que un militaire, c'est numéroté, voilà, un grade, machin, puis on le met sur un bateau pour aller en France. En pourcentage, ça fait qu'il y avait presque deux fois plus de morts kiwis que de morts australiens.
Donc, est-ce qu'on fait pour rebondir sur mon histoire de climate change, ça va prendre deux secondes. Tu parles de millions de morts.
Oui. 40 millions.
Voilà, avec ce qui se passe maintenant.
Bah, 20 millions de morts.
Avec ce qui se passe maintenant, c'est nous qui détraquons le climat. Je te raconte pas le nombre de millions de morts. On n'en parle pas du tout. Hein.
Bah non,
c'est la guerre.
Du tous les jours, malheureusement.
Mais c'est quand même dramatique.
Bah oui.
C'est des millions de morts hein, dans le monde entier, dans les plus pauvres. Ouais, il faut y penser.
Bah dans les pays riches aussi, puisqu'on meurt du diesel et des autres fumées qu'on respire tous les jours.
Pour revenir à la guerre, est-ce que tu veux nous parler de le quénois?
Je vais vous parler du le quénois parce que bon, c'était le centenaire aussi parce que le quénois, si les gens ne savent pas, c'est arrivé le 4 novembre. De la petite histoire, c'est que le 4 novembre 18, c'est quand même que 7 jours avant la fin de l'armistice, il y a encore beaucoup de batailles, il y a un peloton, une garnison kiwi qui s'attaque aux remparts de le quénois, qui sont de très vieux remparts fortifiés, qui reconquièrent la ville. La ville de le quénois avait été prise par les Allemands quand même très très tôt, le 23 août 14. Donc pendant 4 ans.
Quand tu regardes sur la carte, ils sont mal placés, les mecs.
Hein. Oui, ils sont juste à côté.
Il y a des villes, qui n'ont pas de chance.
Comme la Belgique, hein, vous êtes mal placés aussi, il n'y a pas photo. Hein.
Nous, c'est facile. Hein. Nous, on a toujours été l'endroit de passage.
Ah bah, c'était le problème. La Belgique, c'est énorme. Il disait que les personnes déplacées aussi, énorme, juste à cause de la guerre, même si la guerre c'est surtout passée sur le territoire français. Mais il disait, les Belges s'en sont pris. Le centre Robert Schuman, pour ça, est très très bien. Fait un bon exposé de chaque pays et ce qui s'y passe et comment les gens ont souffert.
De toute façon, ils savaient qu'ils ne savaient pas rentrer par la France, alors ils ont fait le tour.
Oui, il y a ça aussi. Et donc, je vous conseille le centre européen Robert Schuman. Il y a plein d'autres données. C'est assez sympa. Ça couvre beaucoup de choses sur l'Europe. Et notamment les guerres, donc il n'y a pas que ça dessus.
Il y a un truc qui m'avait frappé récemment, on est allé à Niue, et donc comme ça fait partie du Commonwealth, ils ont aussi embobiné, enrôlé des Niuans, et en fait, leur histoire, elle est dramatique, parce qu'en fait, ils ont même jamais réussi à se battre, parce qu'ils sont tombés malades directement, en fait.
Ben oui, ils ont chopé les grippes,
et donc en fait, ils se sont retrouvés en quarantaine sur une île, et puis ils en ont ramené, je crois, 5, un truc dans le genre.
Oui, je crois que les statistiques étaient pas belles.
Ouais, non, ils en ont envoyé 500, et ils en ont ramené 5, ils se sont même pas battus. Un truc dans le genre, enfin, c'est horrible.
Ils sont morts quand même.
Ouais, c'est horrible l'histoire, quoi. Ils sont tous tombés malades tout de suite.
Pour faire dans le... Parce que je me suis dit, on va faire pas trop... Bon, c'est le centenaire, donc il fallait... Bon, on va pas fêter ça, non, c'est un peu con, mais... Je me suis dit, on va... Je me suis attaqué, c'est très important quand même.
C'est important d'en parler, et c'est d'autant plus important que tous ces jeunes mecs, quoi, ce sont des hommes la plupart, hein, sont morts pour quelque chose qui est complètement hallucinant, quoi. Et comme disait Séverine...
4 ans de boucherie, quoi.
C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on est quand même... on est des êtres humains, et on a quand même le chic pour se détruire, pour détruire la planète sur laquelle on est, pour se tuer entre nous. On est quand même...
On n'a rien d'intelligent.
On a vraiment...
Et en plus, c'était un truc qui était pas mal expliqué dans l'expo, c'est que tous les chefs d'État qui se battaient... enfin tous les rois et reines de qui se battaient à l'époque, ils étaient tous quand même cousins. Hein.
Mmh. Oui, oui.
Mmh. Oui. Bah, grâce à Victoria.
Bah, exactement. Surtout le côté anglo et saxon. Ouais. Mmh. Alors, ce qui sort pour le côté, qu'est-ce qui se passe en donc je vous ai passé une chanson de 1917. La chanson de 1918, en fait, elle vient d'une opérette française qui a été traduite en 12 langues, qui a fait 3 ans tous les soirs à Paris et partout dans le monde. Et ça s'appelle Fifi. C'est un truc, un genre à la grecque. C'est écrit par des Français à la va-vite. Et c'est bah pas à la va-vite. En fait, ils ont mis 8 mois pour la sortir. Ils voulaient sortir début 1918, donc pendant la guerre. Mais c'est sorti le 12 novembre 1918. Et Bourvil a repris ça dans les années 50. Il a repris l'opérette plusieurs fois. Et donc, je vous passe une petite chanson. Bah c'est gentil. Hein.
Donc là, c'est Bourvil qui le chante?
Ah non, là, j'ai pas choisi Bourvil. J'ai essayé de trouver des chansons originales. Donc, j'ai Georgel, un monsieur qui la chante en 1919.
Wow.
Mais c'est pas lui l'original. C'est pas lui qui a fait sur scène. Okay. C'est lui qui a enregistré.
D'accord.
Parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient au théâtre ou dans les opérettes, mais c'était pas forcément eux qui allaient être enregistrés après, c'était les stars du moment qui étaient enregistrées.
D'accord.
Donc ça s'appelle C'est une gamine charmante.
Joli titre.
On y va.
C'est parti.
Je crois, oui, c'est bon.
Je la croisais l'autre soir, c'était à minuit rue d'Athènes, la voyant seule qui se promène, je lui dis, mon enfant, bonsoir. J'ajoutais à cette rédue, que faites-vous donc dans la rue, naïvement et sans savoir. Elle dit, je fais le trottoir. C'est une gamine charmante, 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 qui possède une âme innocente, innocente. En elle tout est poésie, poésie. Devant la blancheur et l'éclat de son cou plus blanc que l'albâtre, je lui dis quel coup de théâtre, quel coup du ciel, quel coup d'état. Oh, fidèle d'un petit air honnête, vous ne connaissez que mon coup de tête, mais vous serez chiffé, je le crains, quand vous connaîtrez mon coup de rein. C'est une gamine charmante, 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 qui possède une âme innocente, innocente. En elle tout est poésie, poésie. Elle répond au joli nom d'Aspasie.
Voilà, c'était Georgel. C'est une gamine charmante. Oui, on était en train de discuter. Et c'est de l'opérette Fifi qui a fait un tabac en 1918. Le 12 novembre 1918, c'était la lancée officielle de cette opérette qui perdure et dure. On parle de quoi?
Le quénois, tu voulais parler?
Oui, non, le quénois, ça a été.
Donc il y a un musée qui est en train de se.
En France, oui, oui.
Et certaines écoles de Nouvelle-Zélande
pour des échanges, oui, il y a des échanges.
La place de ma fille,
ce qui est incroyable, c'est que c'est un endroit où il n'y a absolument pas d'infrastructure. Enfin, c'est très.
C'est petit, hein.
C'est petit, ils n'ont surtout rien du tout pour. Encore. Et je pense que c'est un truc qui va se développer avec le temps et qui va permettre aux gens, justement. Il y a un lien. Moi, j'ai parlé, j'ai une de mes. J'ai deux élèves et je parlais avec leur maman. Elle m'a expliqué qu'ils avaient été là-bas pour visiter, justement, le lieu. Et la personne qui s'occupait d'office de tourisme était la mère du village. Et il y avait une commémoration à l'époque, ça devait être certainement aux alentours de novembre, et elles lui ont dit on n'a nulle part où aller, etc. Elle dit bah vous venez chez moi. Donc elle les a invités chez eux, elle leur a donné les clés. Le matin, ils avaient un petit déjeuner incroyable sur la table, tout ça gratuitement, bien sûr. Et donc elle a été complètement. Elle a été super touchée par ça et elle m'a dit c'est fou le lien qu'ils ont avec la Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose de très fort. Et aussi la gentillesse des gens du Nord, parce que bon, il y a ça aussi.
Mais il y a la même chose à Arras, mais c'est avec l'autre, à cause des tunnels, mais c'est l'autre guerre du coup, je crois.
Non, c'est la guerre 14-18. Aussi. J'y suis allé il y a 3-4 en juin. Ouais. Et les tunnels d'Arras, donc c'est un musée néo-zélandais qui a été ouvert qu'il y a pas longtemps, en 2004.
C'est vachement.
Et c'est très, 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 très bien fait.
C'est vachement impressionnant et c'est vachement prenant. Ouais. La fin de la visite dans les tunnels, moi, ça.
C'est grand, c'est assez énorme.
C'est à Arras même ?
Non, c'est sous les grands places, en fait, les tunnels qui ont été creusés en 1600 et des brouettes.
C'était une carrière.
Des multiples carrières et les Maoris. C'est pas vrai. C'est pas les Maoris, c'est aussi l'école d'ingénierie de Wellington en 1917 qui a creusé toutes les tranchées pour relier les carrières.
Voilà. Mmh. Et donc, en fait, toute la cartographie des tunnels est nommée d'après la Nouvelle-Zélande. Il y a même un endroit où
il y a Wellington, il y a Auckland, et tout ça.
Ah, donc,
Non, c'est très bien, ça vaut le coup. Les enfants ont beaucoup aimé aussi.
Ouais.
Parce que c'est en son, lumière.
Il y a une espèce de visite un peu interactive où on a des casques audio et la fin donc en fait on progresse parce qu'ils ont passé 3 semaines à creuser ces tunnels, donc on fait ces 3 semaines en 1 heure forcément, et donc la dernière
c'est l'échappée vers l'attaque,
voilà.
En fait
c'est l'attaque.
Parce que le but c'était d'abriter 26 000 soldats, ce qu'ils ont réussi, et donc des soldats britanniques, canadiens, néo-zélandais et australiens pour prendre les Allemands en.
D'accord, les entourer, les coincer.
Et donc, c'est très bien fait pour bien se rendre compte de ce que c'était. Donc, ils ont vécu pendant 3 semaines dans ces tunnels à creuser et puis à sortir.
En masse.
Sans doute.
C'est important, je pense, pour ces villes du Nord qui sont souvent dans une grande pauvreté. Moi, j'y suis allée il y a pas longtemps, il y a quelques années pour enterrer ma grand-mère, et on sent qu'il y a quand même, il y a un taux de chômage qui est le plus haut de France. C'est vraiment une région. C'est vraiment une région qui est dans un sale état. Et c'est vrai que la construction de tous ces musées, et je pense aussi aux antennes des musées parisiens qui sont aussi construites autour comme ça, c'est super important justement, et de pouvoir développer ça.
Bah, Arras, c'est sympa. Hein. J'y étais allé quand j'étais petit, mais ça m'a beau.
Ça fait un peu quatrième dimension quand même quand tu débarques.
Moi, j'aime bien. C'est le côté flamand.
Pour moi, ça change pas. Hein.
Ouais,
ça
ressemble
à des French, donc tout va bien.
Mais c'est pas du tout Saint-Tropez.
Mais ça fait bienvenue chez les ch'tis, quoi.
Bienvenue chez les ch'tis. Frites sur la place avec son
couvert. Ça fait un peu penser aussi à l'Angleterre.
Faites rêver, les gars.
Les maisons ouvrières, les unes à côté des autres. Enfin, il y a quelque chose de. C'est prenant, je trouve, quand on arrive. Et puis bon, tout le monde n'est pas dans la rue, c'est pas le sud de la France, justement.
Si, puis à Arras en juin, tout le monde est dans la rue à manger ses frites et boire sa bière. Les jeunes, les moins jeunes, les gamins.
Il fait jour plus longtemps en plus.
Moi, quand j'y suis allée, il y avait personne. Mais bon, je n'ai pas dû tomber ni le jour du marché, ça devait être en hiver aussi.
Sinon, il faut aller à midi. Tout le monde va au Frites-Côte manger une frite et tu bois une petite bière.
Voilà, c'est ça. Mais même le soir, super tard, jusqu'à 9h30, 10h, toutes les familles, tout le monde était dehors. La grande place est bondée, et c'est l'atmosphère très très sympa.
Tu nous donnes vraiment envie d'aller à Arras.
Honnêtement, allez-y, ça vaut le coup. Il y a
c'est
beaucoup de choses
Arras,
à voir. Dans le Nord. Juste après Beauvais, pas très loin, en montant sur la Belgique.
C'est pas loin de la
c'est deux
côte
heures,
ou quoi
deux heures de voiture de Paris.
2 heures de voiture de Bruxelles.
2 heures de Paris, 2 heures de Bruxelles.
Alors d'ailleurs, en parlant de Bruxelles, par rapport à l'émission de la semaine dernière, on dit Bruxelles.
Voilà.
Donc c'est ma faute parce que je me sens que j'avais dit Bruxelles.
Et ça vient du Brug, en fait, c'est un pont sur le marais.
D'accord.
Si vous voulez savoir, je dis ça pour David qui aime bien l'étymologie.
Quand, quand tu dis un pont sur le marais, le marais à Paris?
Non, Bruxelles.
Le marais de Bruxelles. Il nous reste qu'une minute, donc on dit au revoir et merci à Victor, Séverine, Fred et Blandine.
Enchanté.
Coucou.
Il a vraiment assuré. Bravo.
Voilà, merci Victor.
Et puis on a un fond sonore, ça s'appelle Je cherche après Titine. C'est ça, c'est Charlie Chaplin. C'est une chanson de 1918 écrite par des Français que Charlie Chaplin a repris dans Modern Times.
Séverine, ton dernier mot.
Oui.
En dernier mot.
En une phrase vite, parce qu'on n'a plus quelques secondes.
Essayez d'y croire. Et il est encore temps. Ça s'appelle Il est encore temps et c'est sur Internet.